je disais donc que nous avons ce soir Azote et Mistake qui vont nous présenter un livre blanc. Mistake, bonsoir Mistake, maintenant que tu es enregistré.
Bonsoir.
Voilà, comme ça on reconnaît ta voix sur l'enregistrement. Et bonsoir Azote.
Bonsoir.
Voilà, voilà. Et puis, donc ce soir, le thème, ce sera, donc comme le titre l'indique, écologie, action citoyenne, impact bienfait et effet pervers. Donc, je relis vite fait l'édito. Donc, quel est l'impact des initiatives citoyennes sur l'écologie? La responsabilité n'est pas uniquement celle des politiques, car en réalité, si la population le désirait fortement, ils seraient bien obligés de suivre. Ils veulent être élus. Ils sont le reflet de notre faiblesse. Voilà pour le propos liminaire. Et donc, je me suis un petit peu entretenu avec Mistake et Azote. Donc, il y aura une petite introduction. Le plan sera le suivant. Petite introduction. Je pense que c'est Mistake qui la fera, ou alors c'est moi qui suis en train de la faire. Ensuite, il y aura un exposé d'arguments entre Mistake et Azote. Donc, ça commencera par Mistake, qui va nous faire son petit exposé argumentaire, qui va durer environ 30 minutes. Et puis, celui ensuite d'Azote, qui va durer environ 15 à 20 minutes. Alors, c'est intéressant parce que Mistake et Azote, ça fait un petit bout de temps qu'ils préparent ce livre blanc. Et c'est marrant parce qu'on a vu, une petite évolution dans leur pensée. Donc, ça va être intéressant de voir ce qu'il en ressort. Ensuite, on finira sur un débat ouvert à tous. Vous pourrez leur poser des questions ou alors élargir encore plus le sujet. À savoir que Azote a quelques petites questions à vous poser à l'issue de son propos. Est-ce que Azote, j'ai bien résumé ce qui va se passer ce soir?
Très bien.
Super. Mistakes aussi, t'es OK?
Oui, oui.
Bon, ben super.
Tout à fait.
Super, super. Ben Mistake, alors si tu veux commencer par ce que tu veux ou par ce que tu as préparé, c'est avec plaisir qu'on t'écoute. Je fais un dernier petit commentaire. Si vous avez des questions à poser pendant les propos de Mistake de Azote, s'il vous plaît, posez-les avec le petit point d'interrogation que vous connaissez bien, qui est celui-là. Hop, vous posez la question avec le texte de la question juste derrière, et l'état DI ou moi, on lira la question, et comme ça, Mistake sera heureuse de vous répondre, et je pense aussi...
Si elle peut,
et Azote aussi, c'est surtout sur vos argumentaires et vos réflexions, quoi. Et en fait... Surtout, Mistake m'a fait part que parfois elle va peut-être utiliser des termes qui sont peut-être pas très clairs pour tout le monde. Donc n'hésitez pas, s'il y a un terme ou une idée qui n'est pas forcément très claire, n'hésitez pas à poser la question. Et sur ce, j'arrête de parler et je... Mistake, c'est quand tu veux.
Alors, je vois que le lien que j'ai partagé ne fonctionne pas. Alors, je vais vous demander une petite seconde pour le retrouver.
C'est le Carbon 4, c'est ça?
Ouais.
Alors, j'ai cliqué dessus. Ah, effectivement, erreur 404. C'était un PDF.
C'est bon, je vais c'est le bon, retrouver là, dans pas plus tard que dans pas longtemps.
C'était un PDF.
Là, il a publié.
Ah, ok.
Bien joué, Lay. Et je regarde.
Si, ouais. Et...
Effectivement.
Et donc, je publie aussi un petit récapitulatif visuel de cette étude, qui est donc une étude qui a été publiée en 2019 par Carbon 4, qui est un cabinet de conseil en stratégie climat, bien connu, puisque c'est le cabinet de conseil de Jean-Marc Jancovici, et qui s'appelle, cette étude, elle s'appelle « Faire sa part ». Et elle a été faite par César Dugast et une autre personne dans le cabinet qui explique en fait qu'ils étaient l'un et l'autre exaspérés par la surresponsabilisation des individus à qui on faisait porter tout le poids de la lutte contre le changement climatique. Cette injonction à l'éco-citoyenneté se retrouvait partout, dans le discours médiatique autant que chez les politiques. Voilà, et c'est donc pour ça qu'ils ont fait cette étude. Et que dit cette étude, en fait ? En fait, elle chiffre exactement en France. Alors, ils ont pris les émissions de la France, ils ont divisé par le nombre de Français, ça a donné les émissions moyennes par Français, et du coup, ils ont compté combien, par des actions individuelles, les Français étaient capables de réduire leur empreinte carbone. Donc ils ont pris, alors tous les trucs genre acheter une multiprise avec un interrupteur ou éteindre la lumière en sortant de la pièce, ils ont considéré que ça servait à rien parce que dans les chiffres ça sert à rien. Mais il y a des choses qui sont plus significatives à faire, comme par exemple devenir végétarien, ça c'est très efficace. Arrêter de rouler en voiture individuelle, ça c'est très efficace. Et donc tous ces... Comment dire, toutes ces actions qui sont très efficaces, mais qui ne demandent pas de moyens financiers spécifiques. Ils ont compté qu'un Français pouvait diminuer ses émissions moyennes de 25% avec ces actions-là. Ça, c'est pour les Français qui n'ont pas les moyens d'investir en fait, pour faire des économies d'énergie ou autre. Ils ont aussi pu compter que des Français qui avaient les moyens de changer leur chaudière, changer leur véhicule et faire l'isolation de leur domicile, donc c'est quand même pas le tout bas du Français moyen, c'est quand même des gens qui ont un peu de moyens, ils pouvaient encore économiser 20% d'émissions de gaz à effet de serre sur leurs émissions moyennes. Ce qui totalise quand même 45%. 45%, c'est pas rien. Mais alors, il faut... Je pense qu'il faut considérer que c'est vraiment en faisant tout d'un coup, quoi. Et que, en fait, ils ont regardé un petit peu comment les Français, de manière générale, étaient mobilisés sur le climat. Et en recalculant en fonction de ce que les Français, au vu de leur mobilisation, tous ensemble, étaient capables de faire, ils se sont rendus compte qu'au mieux, on pouvait atteindre 20% de baisse des émissions sur les émissions totales de la France, du coup, juste avec les actions citoyennes. Je ne sais pas si le nombre... Non, je ne pense pas que le nombre d'enfants par couple soit modifié, soit pris en compte. Et donc, ça veut dire... que les 60% restants, c'est le reste. Alors, ce qu'on sait, c'est que le reste, ça va être essentiellement des décisions politiques et surtout des décisions politiques au niveau local. C'est là où on a le plus de marge de manœuvre. En fait, il me semble, j'ai plus le chiffre en tête, mais il me semble que c'est 40 à 60%. Des émissions qui pourraient être baissées par des décisions politiques au niveau local. Oui, proclamateur, il ne faut pas choisir une seule solution, mais toutes. T'as raison. Et donc voilà, et en fait, les deux réunis permettraient de faire la diminution qu'on doit réussir à faire avant 2050 et qui est de 80%. Voilà, donc ça, c'est les résultats de l'étude. Alors, cette injonction à l'éco-citoyenneté, elle se retrouve pas que dans le discours des politiques, elle se retrouve pas que dans le discours... J'ai plus le chat sous les yeux. Hein. Elle se retrouve pas non plus que dans le discours médiatique, les écologistes aussi. En 2007, on a vu la naissance du mouvement des colibris. Je pense que tout le monde connaît le mouvement des colibris et la fable du colibri. J'imagine que j'ai pas besoin de... Bah, Dani, t'as une question ? Et donc, le mouvement des colibris est 14 ans plus tard, en fait. Donc, il y a des gens qui se sont vraiment jetés dedans, qui ont vraiment saisi cette solution. Parce qu'en effet, quand on voit rien se passer autour de nous, on est tenté de faire les choses soi-même. Et 14 ans plus tard, voilà quelques retours d'expérience de militants très engagés sur la fable qui devait créer une prise de conscience massive et sauver la planète. Je cite quelques morceaux choisis. Je ne les cite pas en intégralité parce que ce serait trop long. Donc ça peut paraître un peu décousu, mais par exemple, là, je vais citer Anaëlle Sorigné. Qui est une fervente, qui fut en tout cas une fervente adepte du colibrisme et qui est l'autrice qui anime le blog La Révolution des Tortues, qui est assez connue et qui est beaucoup lue, et qui explique dans un billet intitulé Fuck Greenwashing. Clairement, j'ai le cul entre deux chaises. Moi qui prône la stratégie des petits pas depuis tant d'années, je suis de plus en plus frustrée par l'engagement individuel. J'arrive à un stade où je ne peux plus rien encadrer, surtout pas l'histoire du colibri. Non pas que je trouve ça mal ou bête, je suis pour que chacun se sente concerné et persuadé que réformer nos modes de vie nous rendra plus heureux. Mais je ne supporte plus la déresponsabilisation des institutions et grandes entreprises que cette fable permet. Ensuite, elle parle des frictions que créent les actions individuelles. Elle dit « Combien d'engueulades dans des conversations, physiques ou virtuelles, sur qui prend l'avion, qui mange de la viande, qui achète du plastique ? Pendant qu'on s'écharpe entre lombrics sur qui mérite la médaille du meilleur écolo, ceux qui nous gouvernent poursuivent leur quête mortifère de la croissance éternelle. » Et elle conclut « Je ne dis pas que l'action individuelle ne sert à rien. Je ne dis pas que les petits gestes ne comptent pas. Je dis qu'ils ne suffisent pas, qu'ils ne doivent pas constituer une excuse pour l'inaction au niveau collectif, politique, qui ne doivent pas faire peser la totalité, ni même la majorité de la responsabilité de la transition sur les individus. » Je vais citer maintenant Cyril Dion dans le petit manuel de résistance contemporaine qui est disponible sur Biblia. Bien souvent, les néo-écolos s'épuisent dans de petites actions à faible impact, s'épanouissent dans des projets qui ne font pas encore système avec les organisations sociales, politiques, économiques qui les entourent. Malgré leurs efforts, la destruction va toujours plus vite que la régénération, infiniment plus vite. Nous dormons. Et je vais en citer une dernière, mais je ne vais pas faire que ça toute la soirée. Je cite Justine Davas qui écrit sur son site Les Mouvements Zéro. Elle, c'est une militante pour le zéro déchet. Alors voilà, je le dis, j'en ai marre du mensonge du colibri, et pourtant j'y ai cru. On ne peut pas changer la société en ne pariant que sur le paramètre de la responsabilité individuelle, parce que le monde n'est pas constitué d'individus indépendants les uns des autres. Le croire, c'est au mieux être mal informé, au pire faire partie de ceux qui font la promotion de ce mensonge. Le monde est complexe, constitué de cultures, de structures, de forces, et surtout de jeux de pouvoir. Quand je sors de ma bulle green, je me rends compte que ce qu'il manque, c'est une structuration politique de la transition pour que les gens arrêtent de croire que je fais ça pour m'occuper. Et donc ce truc-là, parce que ça n'a pas l'air très épanouissant quand même, l'action individuelle, quand on lit ses retours à longue échéance en fait, ce phénomène-là, on a appelé ça le burn-out du colibri. Et c'est tout à fait bien nommé, je trouve, parce que l'action individuelle, si on veut qu'elle soit vraiment impactante, vraiment significative, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, et ça demande des compétences. Et les compétences, ça prend du temps aussi de se former. Bref, c'est épuisant et chronophage. En fait, c'est bien simple. Pour quelqu'un qui travaille, ça devient à peu près tout le reste de sa vie. Voilà, on ne fait plus que ça. Quand on travaille et qu'on veut vraiment faire les actions individuelles à fond, tout bien, on ne fait plus que ça. On n'a plus rien le temps de faire d'autre. À titre personnel, je n'avais plus rien le temps de faire d'autre. Je vais donner un dernier témoignage qui est celui de Noémie sur le blog Verdamano. Enfonçons une porte ouverte. La transition vers un mode de vie plus vertueux, ça demande de l'énergie. Beaucoup d'énergie. Et du temps. Beaucoup de temps. Parce que qui dit réduction des déchets dit faire un maximum soi-même, les repas comme les produits divers du quotidien. Qui dit changer d'alimentation dit trouver de nouvelles idées de recettes. Qui dit délaisser les supermarchés dit se fournir chez les petits producteurs, le plus souvent à plusieurs endroits. Ce qui n'est pas forcément pertinent d'ailleurs parce que, en fait, selon la distance que vous parcourez pour trouver des produits locaux ou bio ou plus éco-responsables, en fait, vous pouvez très bien émettre plus de gaz à effet de serre que si vous consommiez des produits importés, tous achetés au même endroit. Voilà. Pardon pour ce petit aparté. Qui dit passer au lavable, dit gérer les machines. Et puis trouver des fournisseurs en fonction de son lieu d'habitation, ça peut aussi être un gros casse-tête. C'est le cas par ici. Or, s'il y a bien une denrée rare et précieuse dans ma vie actuelle, c'est le temps libre. Entre les enfants, le taf et la logistique quotidienne, j'ai entre 1 heure et 2 heures de temps libre par jour. Le soir, quand je suis déjà bien, bien crevée. Alors, pourquoi tout ça? Peut-être il y a des questions, quelqu'un veut dire quelque chose, non? C'est bon?
Ouais, il y a quelques désaccords, mais je dis forcément que on a un débat justement après ça et que le débat est fait pour ça. Donc
ouais, mais je sais bien, de toute façon, je m'attendais à ce que enfin, il y a tellement, tout le monde s'est tellement raccroché à ça que voilà. Je m'attendais à ce qu'il y ait des désaccords. C'était le but aussi.
C'est très intéressant en tout cas, tu peux continuer, je te remercie.
Alors pourquoi tout ça prend tant de temps et d'énergie? Autour de nous, rien, absolument rien, n'est fait pour vivre de manière éco-responsable. Dans son livre « Le bug humain », qui est disponible aussi sur Biblia, quelle formidable bibliothèque, le neurobiologiste Sébastien Boller montre comment notre cerveau, dépendant à la dopamine, nous pousse à détruire la planète. Alors en fait, ce qu'il explique, c'est que le cerveau humain était fait au départ pour survivre en milieu sauvage et donc, on a une glande dans le cerveau qui récompense en fait l'acquisition d'un confort ou de nourriture cette hormone, elle s'appelle la dopamine. Et la dopamine, c'est alors maintenant qu'on n'est plus tout le temps en train de chercher à survivre. C'est ce que vous allez ressentir quand vous passez un niveau dans un jeu vidéo. C'est ce que vous allez ressentir quand vous mettez de la nourriture dans votre bouche, mais vous allez ressentir ça sur les premières bouchées et après il n'y aura plus rien. C'est une récompense, c'est un neurotransmetteur qui vous récompense très brièvement. Enfin, très ponctuellement et très brièvement. Et le problème qu'on a, c'est que ce neurotransmetteur, en fait, on a besoin d'apports réguliers. Et que là, comme nous, on arrive à avoir de plus en plus à chaque fois, eh ben, on en veut de plus en plus. Et donc, il faut qu'on s'en procure de plus en plus. Ça marche comme la drogue. D'ailleurs, la dopamine est partie prenante dans les dépendances, de manière générale. Et donc, si on arrive à avoir un niveau correct, à manger tous les jours, à avoir un toit sur la tête, etc., ben, il va nous falloir plus. Et une fois qu'on aura plus, il nous faudra encore plus, etc., etc. Et donc, ce monsieur, Sébastien Boller, explique dans son livre qu'en fait, le cerveau humain ne peut pas faire autrement. Il explique aussi des techniques pour faire autrement, mais que globalement, le cerveau humain est fait pour nous pousser en fait à surconsommer. En gros, c'est ça. Et ça, le marketing le sait très bien. Les pubs ne vendent pas des produits. Les pubs vendent de la dopamine. Maquillage, dopamine. Nourriture, dopamine. Grosse voiture, fringues, machine à laver, ordinateur, lessive, dopamine. Quoi qu'on achète, en fait, à l'achat, on prend une dose de dopamine. Soit parce qu'on considère qu'on a gagné en confort, soit parce qu'on considère que on a gagné en, comment dire, en image, enfin peu importe quoi. Et donc inciter quelqu'un à l'action individuelle, c'est juste une somme d'injonctions contradictoires. Les pubs et le cerveau disent achète, et je dis n'achète pas. Le goût et le circuit de la récompense disent mange de la viande, et je dis non, pas de viande, c'est mal. Le planning dit « t'as pas le temps » et je réponds « mais si, prends-le ». Rien d'étonnant à ce que le cerveau de certaines de mes victimes se rebiffe. Il est comme ça le cerveau. Les injonctions contradictoires, ça le rend fou. Parfois, il se défend et il dit non. Ou plus exactement, il fuit. Mais pour fuir avec l'honneur sauf, il a besoin d'une bonne excuse. Alors il en cherche une, et le plus souvent, il la trouve. Quitte à l'imaginer, quitte à ce que ce soit sur un site climato-sceptique ou de gentils lobbyistes ayant pris en pitié, auront pris soin de déposer à son attention une excuse toute trouvée. Et si jamais un doute subsistait, pour bien achever de se convaincre lui-même, quoi de mieux que de convaincre les autres ? Et c'est ainsi qu'un peu partout, sur les réseaux sociaux, des ayatollahs du no-GIEC relaient à tour de bras des informations fausses, mais allant toujours dans le sens de « le réchauffement climatique, c'est une fake news, et puis d'abord, tout est la faute des Chinois ». D'ailleurs, les écolos, c'est des Khmers verts. Pour ce qui est de mes autres victimes, celles dont le cerveau était capable d'encaisser la mission, elles vont perdre leur temps et leur énergie à essayer de changer de mode de vie, dans un cadre qui est bien fait pour que ce soit juste impossible, ou presque, pour se rendre compte, épuisées, à l'issue de leur énième bilan carbone, que tous les efforts qu'elles ont faits n'ont servi à presque rien. Voire pire, ont été parfois contre-productifs. Regardons la réalité en face. Dans le cadre dans lequel nous vivons, qui tourne aux énergies fossiles, où on a du marketing partout qui nous pousse à surconsommer, on n'est pas supposé y arriver, en tout cas pas sur de longue durée. C'est presque impossible. On peut bien essayer toutes ses forces pendant 2 ou 3 ans. Peut-être même qu'on pourra finir par y arriver, mais à quel prix ? Parce que, enfin, il y en a qui sont arrivés, hein, mais tout le monde n'a pas la capacité d'encaisser la charge mentale et tout ce qui va derrière, quoi, ou de mobiliser autant de temps dessus. Je veux bien croire qu'une femme au foyer, elle peut le faire, mais pour quelqu'un qui travaille et qui a d'autres problèmes par ailleurs, bah, c'est peut-être pas si simple. Bon, mais alors, puisqu'on n'est pas supposé y arriver, pourquoi faire de l'injonction à l'action individuelle ? On peut s'interroger sur la vraie motivation des politiques quand ils incitent à l'action individuelle. En effet, quand des politiques veulent vraiment que des citoyens fassent quelque chose, généralement, ils y arrivent. Ils arrivent à créer un cadre favorable pour le faire. Ça s'appelle du nudge. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent pas le nudge ?
Moi.
Ok, alors c'est une sorte de technique de manipulation, mais qui est supposée laisser le libre arbitre aux gens. Ça va consister en gros à créer un cadre qui va être facilitant. Donc, par exemple, si je veux que les gens fassent du vélo, je vais mettre partout des pistes cyclables pour que ce soit super agréable de faire du vélo. Mais il y a des exemples un peu plus amusants. Par exemple, il me semble que c'était dans un aéroport à Stockholm, peut-être, où en fait ils avaient des problèmes, ils avaient de gros frais de nettoyage dans les toilettes des hommes, de très gros frais, et ils voulaient donc réduire ces frais de nettoyage. Et ils ont fait un truc tout bête, c'est qu'ils ont, ils ont collé un petit autocollant en forme de mouche au fond des urinoirs. Et du coup, les messieurs visaient la mouche et du coup, ils en mettaient plus partout. Bah, ils ont divisé leurs frais de ménage par 8 quand même. Voilà, c'est des exemples comme ça. Il y a aussi eu un escalier musical, en fait, où on voulait que les gens prennent les escaliers plutôt que l'escalator. Et donc, ils ont créé un escalier musical. Et en effet, il y avait les 2/3 des gens qui prenaient l'escalier musical au lieu de prendre l'escalator. Voilà. C'est bon, c'est compris. Donc en gros, ce que je voulais dire, c'est que quand vraiment, si on veut que les gens se vaccinent, par exemple, on crée des centres de vaccination, si on veut, voilà. Et quand, en fait, le cadre et pas construit pour que les gens fassent quelque chose, c'est qu'on ne veut pas vraiment en fait que ce soit fait. Il n'y a pas la volonté politique, pour moi, elle n'y est pas derrière. Elle n'y est pas, et je peux donner un exemple probant en France. En France, le poids de l'alimentation, enfin le poids, la partie majoritaire de l'alimentation en poids des Français, c'est les boissons. Et les boissons, elles sont toutes contenues dans des emballages. Alors, on le sait, les emballages en plastique, c'est des problèmes de gestion des déchets, c'est émissif, ça consomme de l'eau. Pour faire une bouteille d'eau en plastique, il faut 3 litres d'eau, en fait. Juste pour mettre 1 litre d'eau dans une bouteille en plastique, il faut 3 litres d'eau. Et si on regarde en 2018, l'ADEME a fait une étude qui montrait que 88% des consommateurs français sont favorables à la mise en place d'un système d'emballage consigné, serait bénéfique au niveau écologique. Eh bien, aucune loi, pour l'instant, n'a réussi à passer pour imposer la consigne. Alors, pourquoi ? Parce que si on prend une bouteille de Coca, par exemple, ce qu'ils vendent, c'est la bouteille. C'est ça qui leur rapporte le plus d'argent. C'est ça qui leur permet de faire le plus de bénéfices, c'est la bouteille. Et le Coca qu'ils mettent dedans, c'est juste la carotte qui va vous donner envie d'acheter cette bouteille dont vous n'avez pas besoin. Voilà, en gros, c'est ça. Et il y a un gros lobbying de l'emballage, qui n'est pas forcément d'accord pour qu'on supprime les emballages. Et il y a aussi des entreprises qui font du bénéfice essentiellement grâce à leurs emballages. Donc c'est un exemple que je donne pour dire qu'en effet, on ne cherche pas vraiment à créer le cadre qui va permettre aux gens de faire facilement des actions individuelles. Parce que quand il s'agit juste de ramener ses produits à la consigne, c'est une chose. Quand il faut faire tout un bazar pour pas acheter de produits à emballer, c'est beaucoup plus compliqué déjà.
Mistake. Il y a Gatsby qui n'a pas bien compris le raisonnement sur la bouteille. Si tu peux reformuler.
Qu'est-ce que tu n'as pas compris, Gatsby ?
Le fait qu'ils nous vendent une bouteille et qu'ils ne nous vendent pas du coca. Enfin, quand j'achète une bouteille de coca, j'achète du coca, pas la bouteille. La bouteille, je la jette.
Ouais, justement. En fait, toi, quand tu achètes du coca, ce qui t'intéresse, c'est le coca. Mais dans le prix de ton coca, il y a aussi le prix de la bouteille.
Oui.
Et c'est sur le prix de la bouteille que Coca fait le plus de bénéfices. Donc ça ne les intéresse pas en fait de passer un système de consigne parce que déjà, c'est ça, il y a plus de marge sur le contenant que le contenu.
Mais la marge, elle est sur les deux, non ?
Elle est sur les deux, mais il y en a plus sur la bouteille que sur le contenu.
Ok, pardon, je voulais pas couper, j'ai toujours pas compris. C'est pas grave, continue, excuse-moi.
Ok.
Si j'ai bien compris, s'ils pouvaient ne vendre que la bouteille, ça les arrangerait encore plus parce qu'ils gagnent plus d'argent sur la bouteille que sur le coca.
C'est ça. Je reprends du coup. Alors, Pierre Laroutou en témoignait encore il y a quelques heures sur Thinkerview. La lutte climat ne fait pas face à des citoyens de mauvaise volonté. Elle fait face à des lobbies et des gros. Et du coup, on peut... Enfin, ça interroge quand même. Pourquoi est-ce que les politiques essayent d'orienter les citoyens vers de l'action individuelle alors qu'au final... Il semble pas vraiment tenir à ce qu'il le fasse, quoi. Et alors il y a des gens qui parlent de contrôle social, c'est-à-dire qu'en fait ce serait une manière d'occuper les gens pour pas qu'ils réclament une vraie mise en place au niveau politique. Parce que pendant que vous êtes occupé à essayer de devenir vegan ou si vous préférez de devenir bac plus 3 en nutrition, vous n'êtes pas occupé à réfléchir ensemble à la manière de faire tomber le beau château de cartes en haut duquel ils sont tous perchés, ni à râler, ni à exiger quoi que ce soit, et certainement pas à manifester. Et si jamais vous aviez déjà passé cette étape-là et que vous en êtes à essayer de convaincre les autres de le faire aussi, alors tant mieux, vous serez devenu un bon petit soldat au service du business et des intérêts privés. Parce qu'en fait, En réalité, dans l'action individuelle, on ne les dérange pas tant que ça. Ça n'a pas donné jusqu'à présent de résultats probants de voter avec sa carte bancaire. Ça n'a pas donné pour l'instant de résultats probants. Et donc pendant ce temps-là, rien ne change ou à la marge. Et moi, je considère que l'énergie en fait qu'on crame, soit à essayer de convaincre les autres de faire de l'action individuelle, soit à le faire nous-mêmes, en fait, c'est de l'énergie qu'on crame à mauvais escient parce que elle serait bien mieux utilisée à, je pense, à réfléchir ensemble, à se mobiliser ensemble. Pour ne pas faire chacun sa part, mais plutôt le nécessaire. Et je ne suis pas la seule à le penser. Voilà ce qu'on peut lire. Enfin, Azot va vous parler dans une minute de ce qu'on peut lire dans le texte de Derek Jensen. Derek Jensen, c'est un militant de Deep Green Resistance. Et là, il parle du film documentaire Une vérité qui dérange. Alors, Une vérité qui dérange, c'est... C'est un film qui est sorti il y a déjà plusieurs dizaines d'années et qui était mené par Al Gore, qui était le vice-président des États-Unis et qui a fait beaucoup de bruit. Et du coup, je laisse Azot prendre la parole.
Donc, je vais vous citer ce que dit Derek Jensen. Une vérité qui dérange a participé à exposer le problème du réchauffement climatique. Mais avez-vous remarqué que toutes les solutions présentées ont à voir avec la consommation personnelle, changer nos ampoules, gonfler nos pneus, utiliser deux fois moins nos voitures, et n'ont rien à voir avec le rôle des entreprises ou l'arrêt de la croissance économique qui détruit la planète? Même si chaque individu aux États-Unis faisait tout ce que le film propose, les émissions de carbone ne baisseraient que de 22%. Le consensus scientifique stipule pourtant que ces émissions devraient être réduites d'au moins 75%. Voilà ce que dit Derek Jensen. Donc, comparé à ce chiffre effrayant, il y a les actions individuelles, telles que les manifestations, le boycott ou les pétitions. Elles accordent du pouvoir vis-à-vis des politiques et des entreprises. Les politiques modifient leurs programmes pour ne pas perdre d'électeurs ou pour en gagner. Et les entreprises modifient leur manière de produire ou de traiter les employés, poussées par l'opinion publique et ses répercussions sur leurs chiffres d'affaires. De ce point de vue, les actions collectives sont nettement plus efficaces que les actions individuelles, ce que je ne démentirai pas. Cependant, il faut compléter ces affirmations, dans le pour comme dans le contre, pour reconnaître à leur juste titre la place de ces deux types d'actions dans la lutte pour le climat. Aurélien Barreau dit dans l'interview de Thinkerview, « Si la population le désirait fortement, ils, les politiques, seraient obligés de suivre, ils veulent être élus. Ils sont le reflet de notre faiblesse. » Cette citation n'a pas été choisie au hasard, donc elle est dans l'édito, car elle soulève un point clé de l'argumentation en faveur de l'action individuelle. Dans le livre de Cyril Dion, dont a déjà parlé Mistek, donc Petit manuel de résistance contemporaine, il affirme au sujet de plusieurs exemples de lois assez souhaitables, pour parvenir à faire passer de telles législations et contrebalancer le pouvoir des lobbies de toutes sortes, les élus doivent s'allier aux citoyens et les citoyens aux élus. C'est ce qu'avait compris Franklin D. Roosevelt, l'un des derniers dirigeants d'une démocratie occidentale à avoir engagé des réformes d'un courage rare, en adoptant une stratégie bien à lui, comme le rapporte Naomi Klein dans l'une de ses conférences. Quand Roosevelt rencontrait les organisations sociales ou syndicales et qu'elles proposaient des mesures sociales qu'elles voulaient intégrer dans le New Deal, il les écoutait longuement et leur disait « Descendez dans la rue et obligez-moi à le faire ». En 1937, il y eut 4740 grèves, et des avancées sociales comme jamais aux États-Unis. Pour engager des transformations politiques d'envergure, les citoyens ont besoin de responsables politiques courageux qui ont eux-mêmes besoin de citoyens par millions pour les soutenir. Derrière chaque belle histoire de responsables politiques qui engagent des mutations démocratiques, écologiques ou sociales, on trouve des stratégies de coopération. Donc ce que dit Cyril. Quand on pense qu'il suffirait que vous arrêtiez de les acheter pour que ça se vende pas, la citation de Coluche, rappelée dans un autre passage du livre de Cyril Dion, résume un second point important. Notre consommation fonde une partie des actions individuelles et n'est pas comptabilisée dans les chiffres de Johnson. Voici un deuxième passage du Petit manuel de résistance contemporaine. Certes, regardées sous un certain angle, les actions individuelles peuvent sembler dérisoires comparées aux activités systémiques agricoles, industrielles ou macroéconomiques. Mais on pourrait aisément adopter un autre point de vue. Si les grandes entreprises ou les collectivités polluent, gaspillent, détruisent, c'est dans l'objectif de produire des biens de consommation ou des services destinés à des individus. Si ces individus cessent d'acheter ces produits et services, ces activités ne pourront que se réduire. Prenons l'exemple de l'alimentation. Aujourd'hui, en France, 4 centrales d'achat, donc Carrefour, Système U et Auchan, qui vont ensemble, Leclerc, Casino et Intermarché, concentrent 92,2% des ventes en valeur et 88,5% en volume de produits de grande consommation et frais libre-service. Et il en va de même à l'échelle européenne. C'est ce qu'on appelle l'effet nœud papillon. La majorité des producteurs d'un côté, la majorité des consommateurs de l'autre et, au milieu, la gare de triage que constituent ces 4 ou 5 sociétés. Cette position leur confère un pouvoir considérable pour fixer les prix, influencer les conditions de production et déterminer l'avenir du modèle agroalimentaire français. Elles encouragent directement l'agriculture industrielle qui, comme nous l'avons vu, gaspille l'essentiel de l'eau et participe de façon majeure aux émissions de gaz à effet de serre. Elles collaborent étroitement avec les multinationales de l'agroalimentaire qui ont, elles aussi, une incidence majeure sur la production de déchets, les pratiques agricoles, les transports de marchandises, les processus industriels de production. À première vue, le pouvoir économique et structurel de ces sociétés paraît indéboulonnable, leur capacité de nuisance démesurée par rapport à celle des pauvres bougres que nous sommes. Mais qui donne leur pouvoir à ces mastodontes? Qui les enrichit un peu plus chaque jour? Qui leur assure cette position dominante sur le marché de l'alimentation, leur permettant d'exercer une telle influence? Leurs clients. Ce sont les millions de personnes qui, chaque jour, vont remplir leur caddie dans les rayons de leur hangar géant. Ce que Coluche résumait par « quand on pense qu'il suffirait que vous arrêtiez de les acheter pour que ça se vende pas ». On peut donner l'exemple de la consommation de produits bio qui explose depuis plusieurs années, consolidant l'un des rares secteurs qui ne connaissent pas la crise. Le chiffre d'affaires relatif à la vente de produits bio a doublé depuis 2010 et a été multiplié par 7 depuis 1999. Or, cette croissance se fait en très grande majorité par les achats des particuliers. Ce n'est donc pas un hasard si de nombreuses marques se sont mises à proposer des gammes bio, si, par conséquent, la surface agricole en bio a été multipliée par 3 depuis 10 ans, même si elle est toujours largement insuffisante, si des formations se sont développées dans les lycées agricoles, et si des propositions de loi toujours plus nombreuses cherchent, pas toujours avec succès, à limiter l'usage de pesticides. L'une d'elles a d'ailleurs abouti en 2016. La loi interdisant l'utilisation de pesticides dans l'espace public a été promulguée, puis mise en application le 1er janvier 2017. Donc, la citation un peu longue, certes, de Cyril Dion. Et la suite, donc. Vous devez être le changement que vous voulez voir en ce monde. Cette citation de Gandhi condense 3 arguments dépendants. Les actions individuelles ont un effet bénéfique en ce qui concerne le psychisme. Selon la thérapeute Charlene Schmerber, spécialisée dans l'accompagnement des personnes touchées par la solastalgie ou l'éco-anxiété, les actions individuelles permettent pour la plupart des individus de réduire la dissonance cognitive. Malheureusement, c'est contre-productif pour certains, dont la sensation d'impuissance lors de la mise en place d'actions individuelles renforce la solastalgie ou l'éco-anxiété. Cela reste tout de même une minorité de cas, et il n'est donc pas inintéressant de tenter, pour lutter contre ces deux phénomènes psychiques, de mettre en place des actions individuelles. Voici un extrait de l'interview de Charlene Schmerber. Après le choc, les personnes qui vivent un éveil écologique traumatogène ressentent un sentiment d'urgence et cherchent de façon effrénée des solutions pour retrouver leur état d'avant le traumatisme, quand elles étaient apaisées. Pour elles, mais aussi pour les autres, je constate un réel effet bénéfique si elles décident d'agir, par exemple de changer leur mode de consommation ou de transport. Elles réduisent la dissonance cognitive qu'elles ressentent, car elles mettent en adéquation ce qu'elles pensent et ce qu'elles font. Ça ne veut pas dire que les éco-anxieux qui agissent se sentent super puissants et qu'ils pensent sauver la planète, mais ils se sentent beaucoup plus utiles qu'avant. Il faut comprendre que certes, les actions collectives sont infiniment plus précieuses et plus efficaces que les actions individuelles, mais qu'il n'est, pour un tas de raisons, pas toujours possible de participer à des manifestations et autres actions collectives. Pour ces personnes qui ne peuvent participer aux actions collectives, les actions individuelles sont primordiales, car elles permettent de rester en lien avec ses convictions. Il faut donc considérer à leur juste valeur les actions individuelles, qui sont à la fois le commencement d'un long cheminement de la pensée et des valeurs, et une bouée de sauvetage. Donc, une dernière citation de Gandhi. Montrer l'exemple n'est pas la meilleure façon de convaincre, c'est la seule. Lorsque nous agissons individuellement, nous montrons l'exemple. Les personnes que nous sensibilisons par ce biais à l'écologie sont parfois très jeunes et n'ont pas forcément encore construit leur parcours professionnel. Imaginons que votre petit-neveu devienne d'ici une dizaine d'années un patron de grande entreprise, un politique ou de quelque manière que ce soit un dirigeant. Les valeurs que vous lui aurez transmises par vos actions individuelles en montrant l'exemple seront concrétisées par des actions de grande portée, des actions d'un homme ou d'une femme de pouvoir. Convaincre a un autre avantage, le départ de la lutte pour l'écologie et l'action individuelle. On ne peut pas commencer autrement. Or, pour agir individuellement, il faut que l'on connaisse les différentes techniques d'action. La sensibilisation à l'environnement ne peut pas être effectuée par les particuliers, c'est le rôle des associations, des médias et de certaines personnalités assez connues. Mais l'enseignement des différentes techniques d'action, par l'exemple, ne peut se faire que par les particuliers, par les proches, donc par les citoyens. Après les actions individuelles, arrivent les actions collectives, puis, au mieux, un engagement assez professionnel. Donc, prêcher la bonne parole ne sert à rien, et au mieux, ça ne convainc personne. Au pire, ça en rebute certains. Donc, voilà. Et bah, c'est la fin de nos deux textes. Et donc, il y a quelques pistes de réflexion qu'on a préparées. Donc, je vous les lis, et je vois pas le chat. Donc, les actions individuelles généreront-elles suffisamment de changements pour déclencher des réactions de la part des politiques ? Les pratiques des industriels sont-elles réellement modifiées par le changement de demande des consommateurs ou est-ce un mythe ? L'incitation à l'action individuelle permettra-t-elle un réel changement ou entretiendra-t-elle le statu quo de ne presque rien faire ? Et pour finir, donc, ce qui nous a poussé à préparer ce livre blanc, faut-il inciter les particuliers à agir individuellement. Voilà. Et du coup, je laisse la parole à Dany.
Ben, merci beaucoup. Et c'était vraiment bien. Très clair, je trouve. Et du coup, y a beaucoup de gens qui ont commenté. Donc, je leur laisse la parole. Notamment Proclamator, qui peut peut-être envie de prendre la parole ou pas. Si tu veux, vas-y. Hein. Proclamator, si tu veux prendre la parole, il n'y a aucun problème. En gros, il était très en désaccord avec la première partie et tombe plutôt d'accord avec la conclusion.
Du coup, je vais laisser ma place aux autres personnes pour éviter de prendre le temps de parole de trop. Comme ça, vu qu'on me l'a déjà reproché à l'avance, je préfère prendre ça au sérieux.
Bah après, ce qu'on t'a reproché, c'était surtout de ne pas écouter tout le discours de Mistake. Moi, j'ai pas vu le chat quand j'ai parlé, mais c'était surtout que Mistake avait à peine commencé à parler, que tu critiquais déjà ce qu'elle faisait, alors qu'elle avait même pas de conclusion. Enfin, ça tendait vers rien de particulier, ça tendait pas vers la conclusion de « il faut rien faire », tu vois. Et je sais que ça peut donner cette impression, parce que la première fois qu'on a débattu, ça m'a donné cette impression, mais bon, voilà.
Ouais, du coup, si personne veut réagir, je vais donner mon avis peut-être, mais je vais quand même laisser l'opportunité à quelqu'un d'autre de s'exprimer avant moi.
Je crois que c'est à ton tour, Proclamator.
Génial. Moi j'aimerais bien, juste pour être sûr et certain hein, quand même, que vous clarifiez la thèse défendue, parce que genre il y a eu énormément de citations, etc. Et je trouve que c'est peut-être ma perception à moi. J'ai bien écouté, hein, Dany, je tiens à clarifier ça aussi. J'ai bien écouté et je trouve que les citations qui ont été certes retirées de leur contexte, mais que je connais bien, concorde absolument pas avec la thèse prétendument défendue, qui est non pas, comme on essaie de me le reprocher, l'inaction citoyenne, mais de plutôt relancer la balle au gros en disant voilà pourquoi nous on ferait quelque chose si les autres peuvent faire 20 000 fois plus en faisant 10 fois moins. Et ce que je défendais, moi, du coup, ben, je vais peut-être le dire après, que vous ayez clarifié peut-être la thèse, parce que je pense que ça, pour moi, en tout cas, ça m'aiderait à comprendre votre position.
Alors, c'était pas une thèse en fait. C'était justement, on essayait d'exposer les arguments qu'on voyait pour et les arguments qu'on voyait contre. Et moi, j'ai pris, enfin, contre l'incitation à l'action individuelle. Et en fait, moi, j'ai pris la partie contre l'incitation à l'action individuelle parce qu'à titre personnel, j'ai plutôt ma tendance naturelle, c'est plutôt de penser que dans la balance, ça fait plus. Comment dire, ça a plus d'effets pervers que d'effets bénéfiques. Voilà. Et donc, il n'y a pas une thèse, en fait. On a essayé de couvrir le sujet en apportant du pour et du contre. Et nous, c'était ça notre objet, c'était de débattre ensemble et pas d'asséner une vérité, en fait. Et donc, voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question.
Oui, c'est déjà beaucoup plus clair. Du coup, toi, tu défendais le contre d'une certaine manière, ou en tout cas le pour arrêter l'incitation au mouvement individuel ou collectif, mais en tout cas citoyen. Et l'autre personne, que je me souviens plus son pseudo, je vois pas les pseudos, je suis désolé, était censé du coup faire un résumé des positions qui étaient plutôt pour. Ou en tout cas qui démontrait que ça pouvait être utile. Mais du coup, genre, c'est plus dans la deuxième partie. Je trouvais en tout cas que la conclusion de la deuxième partie sur le pour ne collait absolument pas avec tout ce qui avait été dit pour le pour. Est-ce que genre, c'est y a que moi qui ai eu cette impression-là?
Alors, vous avez entendu Mistake et Azote.
Donc c'était Azote.
Ouais, après, c'est vrai que bon, j'admets que la conclusion n'est pas très poussée. Après, j'ai sauté un passage, mais je sais que ça colle pas forcément. Après, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'apporter différents arguments, surtout pour apporter des éléments au débat et même chose, c'est pas pour toucher la bonne parole.
Ok. Il y a pas de souci. Mais du coup, genre, tu sais, par exemple, la citation d'Aurélien Barreau, tu adhères à cette, je vais pas appeler ça croyance, mais genre, tu adhères à ses propos ou pas?
Est-ce ses que propos, du coup, sur, attends, je relis la citation. Du
sur la, sur la, ouais, tu peux la relire si tu veux. Mais en gros, c'était sur l'impact du mouvement individuel sur le sociétal.
Bah, la citation d'Aurélien Barreau, elle parle uniquement des politiques. Elle dit « Si la population le désirait fortement, ils, les politiques, seraient obligés de suivre, ils veulent être élus, ils sont le reflet de notre faiblesse. » C'est tout ce qu'il dit, enfin, dans ce que j'ai cité.
Mais c'est là où c'est intéressant de le prendre dans son contexte aussi. Après, genre, on peut prendre simplement la situation, c'est la citation en question. T'y crois ou t'y crois pas? Je veux dire, c'est quelque chose qui te semble logique ou tu. En fait, c'est une. C'était pas un débat, c'était plus. Enfin, c'était pas vraiment un débat parce qu'il n'y a pas eu jeu de. Il n'y a pas eu un débat. Mais cet argument-là, tu l'entends? C'est quelque chose qui te semble logique ou pas?
Plus ou moins, toi t'en penses quoi? Enfin, je vois pas trop où tu veux en venir.
Ben, j'essaie de savoir si tu défends vraiment cette position ou pas, ou si tu as juste compilé des arguments auxquels tu crois pas, et du coup on va essayer de parler de ces arguments-là.
Si j'ai compilé des arguments que je trouvais intéressants, parce que justement, tout l'intérêt du livre blanc, c'est qu'on est plus ou moins d'accord sur le fond avec Mistake, sauf qu'il y a certains arguments sur lesquels on n'est pas d'accord, et donc je vais pas prendre des arguments avec lesquels je suis pas d'accord. C'est effectivement un compil d'arguments, donc ça faisait un peu patchwork, mais le but, c'était vraiment de sortir un peu ce que je trouvais cohérent et intéressant.
D'accord. Du coup, ce qui serait peut-être intéressant, c'est d'avoir le retour de Mistake sur ces arguments-là, non? Je sais pas. Ouais, là, ça recommencera à ressembler à un débat.
Mais en fait, nous, notre objet, c'est pas de débattre entre nous. c'est pas de vous montrer que nous on débat, c'est que tout le monde sur le serveur, enfin tous ceux qui sont venus participer à cette soirée débattent en fait, et que on puisse entendre des arguments que nous on n'a pas encore qu'on n'a pas encore perçus. Et l'idée, c'est pas juste que nous on fasse un débat et que vous vous écoutiez et puis qu'après, je sais pas, vous vous débrouillez avec ce qu'on a dit, quoi. Je pense que là, il y a bien assez de cerveau pour que ce soit bien plus riche en parlant tous ensemble, avec des gens qui apportent des pour et des gens qui apportent des contre, et que ben à la fin de la soirée, pour le coup, on en sortira tous enrichis et pas. Enfin, moi, je n'ai même pas l'intention de sortir de cette soirée, en fait, en m'étant fait une idée soit pour, soit contre, quoi. Mais en ayant un catalogue d'arguments soit pour, soit contre, beaucoup plus riche. Et maintenant, moi, si tu veux mon opinion, c'est que on n'influencera pas les politiques avec de l'action individuelle. Si tu veux non. Mon opinion à moi, dont tout le monde se fout, c'est ça.
Alors si c'est super intéressant parce que en fait ce dont on est en train de parler, on en a parlé juste avant le livre blanc avec Azote et Mistake, c'est le débat, comment il s'est déroulé. J'ai suivi leur débat à toutes les deux, enfin de loin bien sûr. Effectivement, il en est ressorti qu'il y avait eu une évolution. En gros, elles se sont forgées leur avis pendant l'atelier du livre blanc. Donc vous n'avez pas vu tout ce petit travail, mais Azote effectivement a évolué dans son idée. D'ailleurs, si vous avez bien noté, leur livre blanc se termine par des questions. Donc, je vais, c'est-à-dire qu'en gros, leur avis n'est pas encore totalement arrêté, et elles aimeraient bien avoir le produit de nos réflexions collectives. Les questions, je les lis. Les actions individuelles généreront-elles à elles suffisamment de changements pour déclencher des réactions de la part des politiques? La deuxième question. Les pratiques des industriels sont-elles réellement modifiées par le changement de demande des consommateurs? Ou est-ce un mythe? Troisième question, l'IAI permettra-t-elle un changement? Alors l'IAI, est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Un changement de ou en tiendra-t-elle le statu quo du ne presque rien faire? L'IAI, ça doit pas être ça. Dernière question, faut-il inciter les particuliers à agir individuellement? Donc les questions sont posées et Fedspat, si tu souhaitais intervenir.
Oui. Avant tout, j'ai bien compris que l'objet du débat, c'était pas de savoir qui pense quoi, mais de poser les arguments et les contre-arguments. Concernant la citation d'Aurélien Barreau, moi je trouve qu'il y a un contre-argument qui est assez solide, c'est que à savoir que les actions politiques ne dépendent pas de la volonté des citoyens. Je suis désolé, mais je pense que nous sommes tous ici d'accord pour dire que les politiques doivent faire une moralisation de la vie politique avec une casier judiciaire vierge des élus, etc. Je pense que si on fait un sondage au niveau de la population française, il y aura une large majorité pour être d'accord sur ce consensus, ça fera consensus, et pourtant, il a jamais été question de moraliser, je veux dire, profondément la vie politique, et on a toujours autant d'escrocs au pouvoir, donc la volonté citoyenne n'est pas forcément un moteur de l'action politique.
Et Achira, t'en penses quoi ? Ou Pézanne, si Achira n'est pas disponible ? Ou Darik, si Pézanne n'est pas disponible non plus. Darik qui dit une petite réflexion, qui dit « Les pratiques des industriels sont-elles réellement modifiées par le changement de demande des consommateurs ou est-ce un mythe ?» Oui, en fait, il repose la question qui a été posée à Azote, par Azote. Alors, Pézanne, tu voulais intervenir ?
Oui, déjà, je voulais remercier les deux intervenants.
On t'entend de très loin, j'ai monté ton volume à 200% et j'arrive pas à comprendre ce que tu dis.
Ouais, et là, c'est mieux ?
Légèrement, mais il va falloir que tu parles très fort.
Là, je ne peux pas faire mon smartphone, mais je vais essayer de parler plus fort. Voilà. Oui, je voulais remercier les deux intervenants qui m'ont aidé à débattre sur ces questions. Alors, première chose, je n'ai pas compris Alors, est-ce que vous m'avez écouté, probablement, mais enfin, je n'ai pas compris quels sont les arguments pour l'action individuelle. Voilà. La deuxième partie, donc la discussion à partir de là, c'est un peu plus difficile de débattre sur ces arguments-là, pour moi en tout cas. Et ensuite, je suis d'accord avec ce qu'a dit auparavant, dans la mesure où les jeunes politiques ont besoin d'argent pour mener leur campagne, et cet argent, ils le trouvent notamment auprès des gens qui ont l'argent, donc des entreprises, des grosses entreprises, essentiellement, l'argent, il vient quand même de l'activité économique, et que ce soit création, etc. Et vu cette collision infernale entre pouvoir et entreprise, les entreprises n'ont aucun intérêt aujourd'hui, en grande partie, décider une action décroissante qui est en faveur de la décarbonation, de nos activités. Donc voilà. Parce que là-dessus, je vais chercher vers quel point de vue ma tête balance.
Ok, donc si tout le monde n'a pas bien entendu, j'ai essayé d'entendre. Donc Pézanne a l'air d'être plutôt partisan des premiers arguments qui ont été posés par Mistek, même si elle n'a pas compris quels étaient les arguments pour l'action individuelle. Elle est d'accord avec le propos de Fetzpatz, et en fait, oui, voilà, si j'ai bien résumé. Et Proclamator qui... Ah, Ashira, tu es revenu? Tu n'es pas revenu? Sinon, Proclamator, vas-y.
Ouais, du coup, je voudrais peut-être répondre aux différentes questions qui ont été posées. Donc, il me semble que la première, c'était la réponse que je voyais. Donc, tu peux répéter les questions, juste pour que je ne doive pas les répéter en les modifiant. Parce que j'ai les réponses, mais je n'ai pas les questions au mot pour mot.
Ok. Je te pose des questions une par une ou ensemble?
Ouais, une par une.
Les actions individuelles généreront-elles suffisamment de changements pour déclencher des réactions de la part des politiques?
Alors là, j'en fais appel à l'histoire, du coup, tout simplement. La plupart des changements politiques se viennent de changements individuels qui ont évolué par des mouvements sociaux et ensuite qui ont eu effectivement un impact. Tu peux aller sur la deuxième?
La deuxième, les pratiques des industriels sont-elles réellement modifiées par le changement de demande des consommateurs? Donc c'est la même question, mais sur les industriels.
Ouais, c'est exactement ça. Ben, du coup, oui, encore une fois, ben, j'en fais appel au greenwashing, j'en fais appel au bio, j'en fais appel à l'alimentation végane, qui pourtant représente, il me semble, 1% de la population, et pourtant les rayons ont brutalement changé. Les produits ont changé, la façon de présenter les produits ont changé. Donc oui, clairement, sur ces deux questions-là, il y a vraiment aucun doute. C'est des questions qui sont répondues et je défie quiconque d'essayer de dire le contraire.
Ok. Ensuite, l'incitation à l'action individuelle permettra-t-elle un réel changement ou entretiendra-t-elle le statu quo du « ne presque rien faire » ?
Alors je pense justement que le statu quo, c'est l'inverse. C'est de dire, voilà, ne presque rien faire, c'est justement dire, regardez, c'est un peu le premier discours qui a été lancé, c'est de dire, y a des gens qui font pire que nous, du coup, pourquoi on ferait quelque chose? Or que justement, c'est ça que je défendais. Moi, la thèse que je défends, c'est de dire qu'il faut un changement de paradigme social, dans le sens, il faut qu'on change notre société et notre façon d'user, d'utiliser et de penser la société. Et je pense que ça, je pense pas, j'en suis persuadé, c'est un changement global qui va faire bouger les choses. Et pour ça, effectivement, comment y arriver? C'est pas les politiciens qui vont le faire de leur propre, parce qu'ils y perdent. Effectivement le peuple, c'est les citoyens, c'est les mouvements sociaux, ceux qui ont eu un réveil difficile comme ceux qui ont eu un réveil progressif par rapport aux causes écologiques. Et qui vont effectivement faire bouger les choses, parce que plus on est un peu comme pour l'influence par rapport aux industries, plus on a un poids, et plus on va avoir les politiciens, on est d'accord pour dire que généralement c'est des méchants qui courent après les votes, mais effectivement, et c'est notre pouvoir à nous, c'est effectivement de dire voilà, genre tu veux que je vote pour toi, vote par rapport à mes valeurs. Et les politiciens, au fur et à mesure qu'on va montrer qu'on veut un changement de paradigme social et qu'on veut agir pour l'écologie et contre le réchauffement climatique, ils vont changer leur programme. Et au fur et à mesure, on va arriver à ça. Mais ça ne sera pas le contraire. Donc ça, c'est
Alors,
juste impossible.
Proclamator, je lis rapidement la dernière question parce que tu as déjà répondu. Faut-il inciter les particuliers à agir individuellement? Donc, pas la peine que tu y répondes, tu y as déjà répondu. Par contre, dans ce que tu dis, à un moment donné, tu dis il faut des actions globales. Et ensuite, tu continues en disant il faut que tout le monde, tout individu change. Mais justement, est-ce que c'est pas plutôt les politiques et les industriels qui peuvent induire des actions globales? C'était ma première question. Et ensuite, j'ai lu pendant les discussions dans le chat, quand tu parlais des actions individuelles, Clamator, il y a eu une phrase un peu provocatrice et blagante qui disait, est-ce que c'est pas un problème de riches? Et je ressors un petit peu de ça, je déterre un petit peu cette blague pour te poser une autre question. C'est ce que tu dis là, c'est vrai que c'est bien, tu veux que globalement tout le monde change, mais est-ce que, enfin, moi je rencontre des gens à peu près tous les jours et qui, à mon sens, ne peuvent pas réfléchir comme ça, ne peuvent pas se permettre d'acheter du bio, ne peuvent pas se permettre grand chose et n'ont pas de grande marge de manœuvre. Et pourtant, c'est des gens qui, voilà, qui vont largement jeter leurs bouteilles de plastique dans la nature, sans problème.
Sans faire de catégorisation, je pense que moi-même je suis pauvre, je peux parler pour moi. Je pense qu'un pauvre généralement a un impact moindre qu'un riche, même si le riche a la possibilité d'avoir de plus belles poubelles. Ça ne change pas que le pauvre dans sa consommation et même dans sa façon de consommer. Donc on comprend la façon de jeter. Le pauvre aura une incidence moindre que le riche. Mais ça ne change pas le fait que culturellement et de façon sociale, Gatsby, je te propose du coup d'affronter nos chiffres, parce que même de façon logique, ça peut être démontrable assez facilement. Un riche va consommer, va avoir plus de moyens de consommer des choses chères. Et généralement, ça ne va pas spécialement sur du bio. Et même sur le bio, genre, je vais répondre à ça aussi par rapport à Danny. Le bio, c'est pas spécialement plus écologique que du conventionnel, à proprement parler. Si on parle pour la nature, hein, c'est pas spécialement plus écologique. Au final, ce qui est plus écologique, c'est pas spécialement ce qui est le plus cher. Et être vegan, c'est pas plus cher. C'est moins cher que d'acheter de la viande pour regarder.
Ok, merci en tout cas pour tes réponses. Je te coupe un peu parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont demandé la parole. Et donc, on avait Olifax qui voulait intervenir. À moins que Ashira soit revenue d'ailleurs, puisque Ashira.
Ouais, c'est bon, je peux nou de nouveau parler. Je sais pas si vous m'entendez.
Yes.
Pareil.
Ouais, nickel. Alors j'avais peut-être des petites remarques pour répondre à plusieurs choses qui ont été dites. La première, c'était concernant qu'est-ce que c'était? Ah oui, le poids des consommateurs sur les grandes entreprises de distribution. Il y avait l'exemple du bio, comme quoi oui, les gens voulaient du bio, la grande distribution a fait du bio et plein d'autres petits exemples comme ça. Moi, j'ai juste une remarque, c'est que le bio, c'est comment dire, c'est un concept qui est assimilable par le capitalisme et avec lequel on peut faire de l'argent dessus. Ça va pas faire vendre moins de faire bio, ça peut même faire vendre plus sur plein de terrains. Et un des problèmes que je vois, c'est que avec notamment le fait de consommer moins d'emballage, moins de plastique et moins de produits entre guillemets non nécessaires, on va pas rajouter des possibilités de consommation. à la grande distribution, on va en enlever. Et est-ce que ça, c'est vraiment compatible avec le modèle économique actuel ? Je suis pas sûre. Et je suis pas sûre que pour ça, la grande distribution va faire des efforts. Et il y avait d'autres points. Est-ce que tu veux parler ?
Ouais, t'avais à un moment on parlait de changement global, etc. Ça me faisait bien rire dans le sens où c'était à l'échelle de la France. Sauf que si on veut avoir un réel impact, faut que ce soit mondial. Et il y a pas mal de pays. Je vais citer que l'Inde et la Chine, hein, qui représentent énormément de la population mondiale. Je suis pas sûr que les actions dont on parlait tout à l'heure, qui peuvent amener à des changements d'industrie, soient possibles dans des pays comme ça, comme on le voit en Occident. Et pour revenir sur ce que disait Ashira sur le bio, ce qui s'est passé, c'est que les commerçants, centres commerciaux et toute l'industrie, a juste pris des marges de bâtard.
Ouais, il y avait aussi un troisième point, c'est est-ce qu'on a le temps suffisant pour faire une révolution par le bas ? Parce que c'est peut-être la manière la plus pacifique et la manière la mieux, entre guillemets, pour que tout le monde prenne vraiment conscience du problème. Mais on a aussi un impératif de temps qu'il ne faut pas négliger. Voilà. Et oui, j'ai vu, Shadok, que c'est produit local et pas produit bio, ce dont tu parlais, mais je crois que la question du bio avait aussi été abordée. Voilà, je laisse la parole.